Bonjour, rebonjour pour certains. Alors, cette fois-ci, nous allons attaquer un sujet qui est le sujet du crowdfunding. Excusez à nouveau mon accent un peu limité. Le crowdfunding, qu'est-ce que c'est? Pourquoi dans le jeu de rôle, tout ça? On va, avant d'explorer le sujet, faire un petit tour de table de nos invités présents. Je vais commencer par Mohand, parce que nous avons tout au fond, monsieur Mohand ou Mohamed Aït Mehdi, je crois.
Ouais, c'est ça.
C'est bien cela.
Ouais.
Qui est un invité surprise que vous n'avez pas dû voir sur le programme.
Surprise, donc.
Voilà, surprise. vient d'un univers qui a rarement le droit à la parole dans nos tables rondes, et c'est bien dommage, qui est l'univers de la figurine et du jeu de plateau aussi, de fait. Donc du coup, je suis très très content d'avoir Mohand comme invité surprise.
Merci pour l'invitation déjà. Et en fait, bon, moi, dans l'univers de la figurine, c'est vrai que en gros, ce qui est intéressant, c'est que nous, on a commencé à développer le jeu de rôle après avoir mis le pied dans le jeu de figurines, en fait. Ça s'est imposé et on a pris un peu le chemin inverse. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est que dans la création, finalement, il n'y a pas de sens imposé. Et je suis très content de pouvoir être là avec vous, puisque du coup, je viens de recevoir le premier jeu de rôle, justement, d'initiation qu'on a sorti. Et on est passé par du crowdfunding pour le lancer. Donc effectivement, quand tu m'as parlé de la conf et tout ça, je t'ai dit oui, quoi. Ça tombait
sur le sens.
C'est
un plaisir. Donc, merci à toi. Sarah Newton, que d'aucuns auront peut-être déjà croisé il y a moins de 2 heures.
Oui, ça va me refaire.
Donc, pour lequel je vais quand même refaire une présentation. Donc, Sarah qui a créé le jeu de rôle Mindjammer, qui aujourd'hui est essentiellement en version anglaise, mais dans la version française est Work in Progress, et bientôt livré. Et tout au moins, je crois que tu avais des nouvelles intéressantes sur le sujet, en termes de disponibilité de la version française.
C'est ça. Bonjour.
Donc toi aussi, tu es passé par les mécanismes de crowdfunding, et notamment par Kickstarter, pour ne pas le nommer.
Oui, c'est ça. On a fait une campagne crowdfunding il y a un an, après avoir déjà publié le livre de base et un supplément. Alors, on est lancé dans un crowdfunding pour continuer la gamme, et on a réussi et on est en train de livrer maintenant.
Ok. Damien Coltis parmi nous. Donc Damien qui, à l'origine, était un traducteur dans l'environnement du jeu de rôle, qui est présent parmi les amateurs de jeux de rôle depuis un petit moment, puisque on l'a vu autour notamment de projets comme celui des Chroniques oubliées, qui commence à être une référence en termes d'initiation. D'ailleurs, c'est la référence française en termes d'initiation, osons parler de la sorte. Qui maintenant, du coup, va faire un travail d'éditeur, puisque son métier a largement changé. Et ce, donc, justement, pour Black Book Edition. Excuse-moi Samuel, pour Black Boot Edition, et du coup je te laisse ajouter si t'as envie.
Oui, bonjour, par rapport à la thématique aujourd'hui, Black Book Edition donc, fait effectivement du crowdfunding et propose aussi une plateforme de crowdfunding donc, qui accueille d'autres éditeurs dans le milieu du jeu de rôle.
Merci à toi.
Merci.
Et enfin Samuel Tarapaki pour Sans Détour. Alors Samuel qui peut... Se targuer d'avoir 35 ans de jeu de rôle au compteur, c'te classe, j'ai envie de dire. Donc chapeau. Et qui du coup, je crois que tu fais aussi du GN, pas mal de choses.
Oui, je pratique effectivement du Grandeur Nature.
Ouais.
Pour d'autres raisons que le jeu de rôle, évidemment.
C'est j'ose imaginer.
Plus copinage et puis faire la fête. C'est une autre manière de faire la fête, le Grandeur Nature.
Et donc du coup, tu vas éditer, mais tu vas aussi écrire, si j'ai bien compris.
Je suis auteur en particulier pour l'Appel de Cthulhu. La gamme principale essentielle chez Sans Détour. Et puis voilà, donc des scénarios récemment, la grande campagne française des 5 supplices. Et puis voilà, puis à titre évidemment autre professionnel, je suis opérateur chez Sans Détour en matière de gestion, en matière de communication pour cette entreprise.
Très bien. Alors c'est bien ce que tu abordes, la notion d'entreprise, et on va voir un petit peu comment ça s'inscrit, parce que moi je vais partir sur une notion toute bête qui est la notion de crowdfunding. Pour moi c'est avant tout, et je m'arrêterai en termes de définition ici, un mécanisme de levée de fonds. On va parler simplement de ça. Et du coup, à partir de cette base, qu'est le mécanisme de levée de fonds, j'aimerais avoir vos impressions par rapport à ce mécanisme-là, vos usages, et interroger quelles seront vos attentes d'un point de vue général, que vous soyez éditeur ou que vous soyez créateur. Donc tout d'abord, voyons comment vous définissez ce sujet de la levée de fonds dans vos usages.
Non, on le fait pas.
Du coup, je commence ou je vous laisse la main, comme vous voulez. Bon, moi, je vais faire très très simple parce que, en gros, pour moi, le crowdfunding, ça s'est imposé comme du bon sens paysan. C'est-à-dire qu'en gros, je suis venu quand j'ai créé Happy Games Factory. La première chose que j'ai fait, c'est que je suis comme tout le monde. En gros, je suis allé voir une banque et j'ai expliqué mon projet. Bon, on m'a regardé avec des grands grands yeux. Là, je me suis posé des questions. J'avais pas ça à l'époque. Et du coup, je pense que ça venait pas tellement de mes habits ou de quoi que ce soit. C'était vraiment que la personne ne connaissait pas du tout le milieu. Donc, par chance, j'ai fini par trouver une banque où je suis tombé sur un conseiller qui connaissait le milieu, mais pas son boss. Donc, en fait, à un moment donné, quand on commence à développer une petite entreprise, il y a un moment où on se demande comment on va trouver les fonds. Et pour moi, le crowdfunding est arrivé pile au bon moment parce que je suis sculpteur peintre de formation. Enfin, de formation, je me suis formé tout seul, mais il n'y a pas vraiment de formation dans ce milieu-là. Et il se trouve que j'ai fait ça par passion et par plaisir. Et le jour où j'ai voulu commencer à me lancer, il se trouve que y a eu des zombicides qui sont sortis. Il y a eu des jeux avec beaucoup de figurines dedans qui sont sortis. Et du coup, pour moi, ça a été un appel finalement. On m'a dit, regarde, de ce côté-là, ce que tu fais, ça peut beaucoup plaire. Donc, tu peux réussir à récupérer des fonds qui vont te permettre de lancer ta société, il suffit que tu montres aux gens ce que tu es capable de faire. Et moi, le fondement du truc et pourquoi je me suis lancé là-dedans, c'était vraiment parce que je me suis dit que je pouvais montrer ce que j'étais capable de faire et que les gens étaient capables de me soutenir parce qu'ils apprécieraient ou pas, parce qu'au début, on ne sait pas si ça va marcher ou pas, évidemment. Ils apprécieraient ou pas ce que je fais et à partir de là, ils me suivraient ou ils ne me suivraient pas. Mais au moins, j'aurais une réponse et je ne serais pas dans une dynamique qui est la dynamique classique d'une société lambda. Je me suis pas lancé dans la boulangerie, donc pour moi c'était une solution qui me permettait d'éviter les banques, enfin d'éviter parce que j'en avais pas l'option, et de lever des fonds pour lancer une société, tout simplement. Voilà. Donc j'ai commencé à expliquer mon point de vue, mais après je pense qu'on, en fait, il y a autant de raisons et de se lancer dans le crowdfunding qu'il y a d'acteurs dans le crowdfunding. Donc après, c'est ce qui est intéressant autour de la table, c'est qu'il y a plein de personnes différentes, d'horizons différents. Donc après, je vais peut-être laisser la parole à...
Bref, je suis complètement d'accord avec Mohamed. Mais plusieurs choses à dire. Pour nous, c'était intéressant parce que nous avons commencé très traditionnellement avec Mindjammer. Nous avons fait 2 livres qui étaient complètement financés par nous-mêmes. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que maintenant, en particulièrement dans les pays anglophones, le public attend une très haut niveau de qualité pour les livres de jeux de rôle qui n'existaient pas encore auparavant. Et tout simplement, c'est très difficile à achever ce niveau si on se finance traditionnellement. C'est un procès lent, c'est un procès graduel. Mais avec le crowdfunding, bien sûr, on peut se lancer dedans immédiatement et commencer avec un très haut niveau. Alors, c'est à cause de ça qu'on a commencé à faire ça. Aussi, au niveau du business, bien sûr, le crowdfunding, c'est une sorte de rêve maintenant. Ça permet d'achever les choses, la qualité qu'on a voulu faire depuis des années, mais maintenant, on peut le faire et c'est déjà attendu. Alors, c'est ce que nous avons fait pour... oui, ça suffit pour l'instant, je crois. Oui, merci.
Pour parler du crowdfunding, moi je suis assez d'accord sur le fait que ce soit un outil. Voilà, il n'y a pas de, à mon sens, il n'y a pas un sens particulier autre qu'un outil. Alors après, il vient pallier effectivement à ce problème que soulève Mohamed, c'est-à-dire le fait que les banques ne prêtent plus. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle que le crowdfunding a remplacé les banques? Je sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça. L'autre, ce qui est certain, c'est que dans un petit milieu comme le milieu du jeu de rôle, où les fonds sont difficiles à récupérer, où les ventes sont faibles, ça a été vraiment un moyen pour beaucoup d'acteurs de soit faire des jeux, c'est-à-dire vraiment des gens qui n'auraient jamais rien fait ont pu faire grâce à l'argent récolté, ou au contraire consolider les entreprises qui étaient quand même qui ont toutes vécu en difficulté ces 15 dernières années. Donc voilà, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Moi j'ai pas trop d'avis sur la question. Ça a été mieux pour notre société, mais parce que par ailleurs il y avait d'autres problèmes, quoi. C'est voilà. Sinon après, ce qu'on peut dire quand même sur le phénomène, c'est que c'est donc une levée de fonds qui est basée sur la foi et la confiance des consommateurs. Alors pareil, il y a ces aspects très positifs. Quand on a confiance dans les gens et que si les gens vous rendent la confiance, bon bah c'est tout est bien dans le meilleur des mondes possible. Et puis après la foi, bah après tout c'est la foi, donc on peut pas. Quelqu'un qui aura la foi, il la gardera longtemps. Mais après, quand il peut y avoir tous les aspects négatifs, c'est-à-dire que en fait, au départ, on vend du vent. Et voilà. Et qu'est-ce que ça deviendra? Est-ce que ça deviendra réellement quelque chose de concret, à la hauteur des espérances, etc.? On est capable de créer tellement d'engouement sur des projets à partir de rien, enfin en tout cas d'idées, de mots, que voilà, il y a un danger naturel aussi qui est nouveau par rapport au métier. Voilà.
Oui, alors oui, évidemment à tout ce qui vient d'être dit. Pour alors chez Sans Détour, le crowdfunding est venu d'une. Bah déjà, nous on était opérateurs depuis assez longtemps. On avait fabriqué nos produits façonnés sur un autre modèle. Et puis le crowdfunding n'existait pas à nos débuts. C'est vraiment une mode américaine. Et puis quand on a découvert cette opportunité, on s'est demandé, mais parce que jusqu'à maintenant on éditait des jeux en priant tous les grands anciens que ça marche. Et puis on imprime une boîte à 500 exemplaires, à 1000 exemplaires, ça marche ou ça marche pas. On a eu des succès. Il y a des fois on se dit mais on aurait dû en imprimer plus, et d'autres fois on se dit mais on aurait dû en imprimer beaucoup moins. Le crowdfunding a cette différence, c'est qu'on sait où on met les pieds. Dans un premier temps, hein, je parle de l'historique, dans un premier temps on se dit mais c'est le public qui va choisir avec nous, on va lui faire une proposition, s'il en veut, ben on pourra le faire. S'il n'en veut pas, c'est que notre produit, ben, il ne correspond pas à l'attente à ce moment-là, il ne correspond pas à la mode, il ne correspond pas au budget, voilà tout ça. Et puis le public donne son avis, donc un crowdfunding, dans la mesure du possible, peut évoluer durant sa période de lancement, de manière à prendre en compte l'avis du public. Donc ça permet vraiment ça, d'aller ciseler une proposition, de faire quelque chose qui soit au départ parlant. On parlera de la communauté, je pense, un peu plus tard, parce que lancer un produit sans communauté, même sur un crowdfunding, c'est compliqué, c'est le moyen de se faire une communauté. Chez Sans Détour, nous avions cette communauté. Donc au premier crowdfunding, celui qu'on a fait sur la septième édition de l'appel de Cthulhu, pour nous, il était raisonnable de penser que ça allait fonctionner, mais jusqu'où? Quelle formule proposer? Produit cher, pas cher? Quels sont les paliers? Beaucoup, beaucoup de réflexions autour de ça. Et on apprend en marchant hein, à ce niveau-là. C'est un mode de financement très récent par rapport au reste des économies qui existent. On a parlé des banques. Oui, les banques ne prêtent plus. C'est leur boulot. Elles ne font plus leur boulot. Donc aujourd'hui, elles sont remplacées par un mode de financement participatif qui est entre les mains des pledgers et des entreprises directement. Et puis, moi, j'ai appris qu'elle voudrait bien ou nous voir disparaître en matière de plateforme de financement ou happer ce mode de financement. Les banques ne le font plus, mais sont toujours intéressées pour récupérer les expériences dans ce domaine. Je trouve ça dommage. Donc voilà, historiquement, l'opportunité de le faire. Et puis aujourd'hui, de proposer un produit et de le faire évoluer, le calibrer en fonction des attentes du public.
Merci. Peut-être des ajouts, des rebonds sur le sujet.
Du coup, moi, il y a juste deux points en fait que vous avez soulevés qui, pour moi, étaient, enfin, un point particulièrement, c'est quand Damien parle de vendre du vent, en fait. Et voilà, bon, déjà, bon, l'expression, elle n'est pas forcément opportune, évidemment, mais en fait, moi, on en parlait en amont, et moi, je veux justement mettre le doigt. Là où en fait, j'aimerais bien justement
ça
quand
même
montrer.
Pour que ce soit sûr, moi je suis pas pour qu'on vende du vent. Hein.
Non, mais attention, c'est l'expression qui est mal choisie. Dans le fond, j'ai compris ton propos, mais il faut. Et moi je suis aussi là pour ça. C'est pour aussi expliquer et montrer aux gens que une campagne de crowdfunding, finalement, le projet, il doit être quasiment fini quand on le présente. À l'heure actuelle, le niveau il est tel que on ne vend pas du vent. On vend un rêve dans lequel nous-mêmes on croit et dans lequel on investit en amont énormément. Parce que contrairement à ce qui était possible peut-être il y a, je dirais 10 ans, et encore que, hein, parce qu'au final, Zombicide, un des plus gros succès. Je parle beaucoup de moi de jeux de plateau de temps en temps, parce que c'est vrai qu'on est dans le jeu de rôle là, mais.
C'est vrai que ça fait une vraie différence, mais t'as raison.
Ça fait une différence, mais la différence, elle est pas si énorme que ça, parce que on a les illustrations à bosser, on a les règles à bosser, on a l'univers à bosser. Parfois, bon, effectivement, sur Cthulhu, les gens, bon, l'univers, ils savent très bien de quoi on parle, il y a des choses qui sont déjà établies, la communauté est déjà plus ou moins présente, mais quand on parle de projet qui démarre et qui se lance et d'univers qui se crée grâce au crowdfunding, il y a un boulot qui en amont est monstrueux et ça très souvent on évite de le montrer. C'est le principe du magicien. Si on commence à vous montrer toute la galère que c'est en amont et tout le travail qu'il y a à faire en amont, on squeeze le rêve. Donc c'est vrai que dans la façon de présenter, c'est là où en fait c'est crucial et je pense que ça à un moment donné il faut qu'il y ait de l'échange, c'est de dire non, il y a du énormément de travail en amont pour des petites sociétés comme, je vais dire la mienne parce que à un moment donné je peux pas parler pour les autres, mais non, c'est une prise de risque, c'est un rêve qu'on étale devant les gens, donc c'est où ils suivent ou ils suivent pas, mais s'ils suivent pas malheureusement pour nous, bah, ça a un coût assez énorme, donc ça c'est un truc sur lequel je voulais juste revenir parce que pour moi c'est important.
Je te remercie beaucoup et du coup moi ça me fait rebondir sur une question, c'est que vous parlez tous en fait de structures que sont vos entreprises ou en tout cas les gens qui dépendent de quelque part financièrement de cet accès au fond pour vivre derrière. Il y a toute une collectivité de gens qui vont être des graphistes, qui vont être des gens qui écrivent, qui vont être les éditeurs eux-mêmes d'ailleurs. Au demeurant, ça reste des foyers qui dépendent de cette dynamique-là. J'aimerais justement savoir comment, alors c'est peut-être plus du point de vue éditeur dans un premier temps, mais comment ce crowdfunding vous permet de vous projeter, notamment d'un point de vue emploi et financier dans votre entreprise.
Je vais être transparent. Chez Sans Détour, nous avons 4 salariés et un gérant. Tu disais tout à l'heure qu'effectivement un crowdfunding en amont c'est beaucoup de travail. Clairement, pour faire nous les campagnes qu'on met en place en ce moment, il faut 6 mois de travail préalable sur les campagnes, qui engagent 2 ou 3 des 4 personnes. Puisqu'il y a la gestion au quotidien, hein. On ne fait pas que du crowdfunding, on continue à sortir des suppléments quand même, il y a de l'animation sur le Facebook, sur le réseau. Donc c'est-à-dire que pendant une période où on encaisse assez peu d'argent, il faut quand même payer les salaires de ces personnes-là. Et puis, lorsque la campagne est financée, les délais vont de 6 mois, alors nous concernant, hein, les délais sont variables, hein, 6 mois à 1 an de fabrication. Pendant cette période-là, et avec l'argent collecté, il faut également vivre et payer les salaires, et la production, et le stock, et le transport, etc., de tout ça. Donc, ça nous amène à 6 mois à 1 an de travail autour d'un financement. C'est la raison pour laquelle les dossiers, ce que tu disais, les dossiers sont sélectionnés. On ne fait pas un financement participatif avec n'importe quoi. Connaissant nos gammes et les pledgers, on sait que mettre de l'énergie sur un jeu pour en faire un crowdfunding et pour avoir à nous 300, juste entre guillemets, juste, c'est énorme pour les entreprises, mais 200, 300, 400 pledgers, nous, ça ne fonctionnerait pas. Ce serait intéressant dans d'autres circonstances, pas chez nous aujourd'hui. Donc, on préfère dans ces cas-là, ce jeu-là, le transformer en gamme traditionnelle et le sortir de la même manière parce que ça va plus vite, parce que c'est pas le même investissement. On gagne beaucoup moins d'argent, clairement. Hein, un crowdfunding, c'est directement de l'éditeur au pledger, au souscripteur, sans passer par le distributeur ou la boutique, bien sûr. Encore derrière, on reparle aussi de la vitrine que ça représente. Un succès au crowdfunding milite aussi en faveur du jeu et fait que le jeu fonctionne également en magasin après. Voilà, donc ces étapes-là et l'argent collecté sert pas à placer dans une banque en attendant que les intérêts tombent, pas du tout. Limite, quand l'argent rentre, déjà il est à moitié dépensé parce qu'il y a des frais, il y a des frais de conception. Le nombre d'illustrations sur un crowdfunding, ce sont des images qu'on ne verra pas dans le jeu. Il vous faut toutes les plaquettes, tout l'habillage graphique des paliers, etc. Ça, c'est du temps uniquement pour cette période-là. Ces images-là ne seront pas réexploitées. Alors qu'on a des banques de données, des banques d'images, de milliers d'images dans le jeu de rôle, on est en train de créer des images nouvelles qui servent une fois, puis après terminé. C'est du temps. Pour illustrer toute une gamme de pledgers, il faut une semaine ou 15 jours d'illustrateur. C'est du temps, c'est du salaire. Il faut payer tout ça.
Damien, sur le sujet peut-être je sais pas si tu...
Non, bah évidemment, je souscris exactement à ce qui a été décrit là. C'est vrai que de plus en plus, en apprivoisant l'outil, et puis aussi du fait de la façon dont tu utilises, dont les clients qui passent par l'outil l'utilisent, donc voilà, les acheteurs, fait qu'il y a une orientation sur la façon de gérer les projets maintenant, qui fait qu'effectivement, de plus en plus, il y a de plus en plus de travail fait en amont. Et donc, comme le décrit très bien Samuel, c'est des semaines, des mois de travail, quoi. Et donc, en fait, c'est toute la subtilité de cette... Enfin, c'est pas si c'est une subtilité, c'est pas une subtilité, mais au tout départ, c'est vrai qu'on a vendu un peu du rêve, notamment aux créateurs, en leur disant, voilà, il y a un nouvel outil. Si vous êtes un nouveau créateur, et ben vous allez pouvoir venir. Et si les gens veulent de votre jeu, et ben vous en vendrez, vous pourrez le faire. Mais en fait, la réalité du marché économique classique a repris le pas sur tout ça très vite, parce que finalement, les enjeux restent toujours les mêmes. C'est-à-dire que pour vendre un jeu, ben il faut montrer ce que c'est, il faut donner envie aux gens, et tout ça, c'est un travail. C'est au-delà de la création du jeu. C'est un travail commercial, quoi. Et donc ça fait évoluer les usages, ce qui rend plus difficile pour un créateur lambda qui écrirait même un bon jeu, hein, d'arriver grâce à un crowdfunding maintenant à le faire connaître. Alors que c'est peut-être plus facile au tout début du crowdfunding, vu que les usages étaient moins, voilà, il y avait moins de gens, moins de projets, donc ça pouvait attirer l'œil plus facilement. Mais plus le temps va aller, les logiques d'entreprise vont prendre le pas. Et donc, ce qui implique aussi donc, cet usage-là de beaucoup investir avant pour espérer faire en sorte que ça marche ensuite. Mais de toute manière, les garanties de réussite des projets resteront variables. Ça n'enlève pas tous les risques non plus. Je pense que Samuel le dira et mes collègues aussi, mais avant qu'un projet se lance, même s'il y a certaines attentes, même s'il y a certaines données qui permettent d'espérer certaines ventes, il y a toujours ce phénomène pas forcément rationnel, mais voilà, la perception du public, est-ce que le public va suivre sur tel ou tel jeu, et donc il y a toujours une part de risque qui reste, et du fait qu'on investisse beaucoup avant, en fait le risque qui semblait annulé au départ renaît en fait. Voilà, donc parce qu'il y a beaucoup de gens à une époque qui disaient oui, mais les éditeurs en fait ils prennent aucun risque. Mais on s'aperçoit assez vite que avec l'évolution qu'il y a eu en quelques années, de nouveau les éditeurs reprennent des risques malgré tout.
Alors je me permets juste de faire un petit aparté public. Est-ce que cette dimension vous l'aviez pressentie dans le discours qu'on allait entendre aujourd'hui ou pas?
Ouais.
Plus ou moins. Ok. J'aimerais avoir du coup le regard créateur qui de toute façon s'ancre aussi dans ces dimensions de financement et de d'entreprise à gérer. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de votre côté?
Oui, de ma part, Mindjammer Press a pu devenir une entreprise assez stable tout d'un coup avec une campagne crowdfunding. Nous avons utilisé le Kickstarter. C'est un mot en anglais qui veut dire démarrer son moto d'un seul coup de pied, oui. Et tout d'un coup, nous roulions à 90 km/h dans la première seconde de la campagne. Et ça n'a pas cessé encore. Alors ça veut dire que le crowdfunding, le Kickstarter est devenu très important pour nous. Je veux dire crucial. On veut continuer à les utiliser pour... atteindre le financement pour les nouveaux projets. Mais comme Mohamed a dit, c'est très important. Il y a beaucoup de risques quand on commence une campagne. Et effectivement, il faut avoir quelque chose à vendre. C'est pas vendre du vent. C'est vrai, nous avions vraiment notre projet presque fini avant que nous avons commencé la campagne. Et ces risques vont continuer. Maintenant, on découvre que la vitesse de livraison et de production des produits qu'on a premier à livrer est devenue la chose la plus importante pour nous. Il faut agir vite avec un Kickstarter si on veut continuer à les utiliser pour lever les fonds.
Alors moi, pour du coup répondre à ta question, donc Happy Games Factory, c'est une SAS avec lequel, en fait, pour le moment, j'ai pas du tout d'employés en interne. Je bosse que en freelance. Et l'intérêt aussi du Kickstarter, c'est de réussir à créer une équipe avec laquelle je bosse actuellement et de la réintégrer dans la SAS en signant des contrats, tout simplement. C'est aussi con que ça. À l'heure actuelle, la difficulté pour nous, elle est là. C'est-à-dire qu'on se sert du Kickstarter pour lancer des projets et aussi pour nous développer, en fait, tout simplement. Les rapports, peut-être, en France, sont un peu délicats par rapport à ça parce que c'est toujours plus difficile d'embaucher. C'est toujours vraiment laborieux. Il y a une prise de risque qui est énorme à titre personnel, parce que finalement, quand on lance une société, enfin à mon niveau en tout cas, on s'implique personnellement et on prend du risque personnellement. Donc c'est toujours ça la difficulté. Et moi, Damien en fait disait un truc assez intéressant. Il parle d'investissement, de changement et tout ça. Pour moi, ça a été une évolution. Parce que la toute première fois que j'ai fait appel à un crowdfunding, c'était sur une plateforme Indigo et c'était pour sortir un livre. C'était pour sortir un livre parce que Eden, qui est le jeu de figurines avec lequel j'ai commencé, n'avait pas de livre en couverture rigide. Alors, ben moi, je trouvais ça trop dommage. Et du coup, j'avais vraiment envie d'un livre avec une couverture rigide. Donc, je l'ai lancé à titre personnel. Et à titre de personnel, c'était super parce que ça m'a donné les fonds pour... Parce qu'en France, on a le droit en tant que particulier d'éditer jusqu'à 2 livres par an. Donc bon, après je me suis renseigné sur les droits, sur la possibilité que j'avais de le faire. Je l'ai fait, je trouvais ça génial. Et les gens autour de moi étaient persuadés que j'avais fait de l'argent, alors que je n'avais pas fait d'argent. J'avais financé l'impression d'un bouquin. Et la différence, elle est là. J'aurais été très content de faire de l'argent, ceci étant. Et le rapport à ça, il est hyper délicat à l'heure actuelle avec Kickstarter, parce que ça a évolué crescendo vers quelque chose qui s'est professionnalisé, ce qui implique... la professionnalisation, finalement, elle implique d'avoir un projet complètement abouti à l'arrivée. Et donc, finalement, que les entreprises les plus grosses, donc je parle pas de Cool Mini or Not ou d'autres entreprises comme ça, mais en gros, je parle d'elles, en fait. Et en gros, c'est ces entreprises-là qui vont finalement le plus se dégager, puisqu'elles vont avoir une armée, j'exagère, mais 10, 15, 20 personnes qui vont pouvoir s'atteler à la tâche sur du concept et tout ça, qu'elles vont en plus... très souvent venir prendre en France parce que c'est là où on a les gens les plus talentueux, pour lancer des Kickstarter à gros succès. Là où finalement nous, les petits éditeurs, on va se faire reprocher le fait que notre contenu n'est pas suffisant. Mais à un moment donné, on rentre dans le domaine du consommateur lambda que je suis aussi quand je suis au supermarché. C'est-à-dire qu'on finit par être schizophrène parce que, en gros, on va vouloir de la qualité parfaite et une énorme quantité, mais produit en France, là où en fait finalement on peut faire ça seulement en produisant en Chine. Et c'est là où en fait ça va être super délicat la transition, et que aujourd'hui moi je suis en plein Kickstarter, donc je parle de quelque chose qu'on vit à l'heure actuelle sur Gnome et Associés. C'est, on nous en demande plus, comme pourrait le faire un Cool Mini or Not, donc une grosse société, sauf que nous en tant que petits, on propose ce qu'on peut proposer sans se tirer une balle dans le pied ou savoir que notre jeu sera pas viable en sortie boutique ou dans le commerce. Ça peut paraître un peu obscur ce que je dis, donc je sais pas si on pourra faire tourner un micro pour voir si ça a de l'écho ou si je... Voilà. Mais l'idée, elle est là, c'est que à un moment donné, il faut se questionner sur, est-ce que Kickstarter, c'est en train de devenir une boutique de pré-vente où les sociétés qui ont suffisamment grossi vont pouvoir continuer à s'imposer, ou est-ce qu'on va pouvoir vraiment continuer à faire en sorte que Kickstarter soit, ou n'importe quelle plateforme de crowdfunding, une zone où des petits éditeurs vont pouvoir continuer à présenter un produit qui sera léché, qui pourra être livré dans les temps ou pas, parce que malheureusement ça fait partie des déboires, et où on va pouvoir continuer comme ça à se développer sereinement et sainement, quoi.
Bien, j'ai peur qu'on n'arrive pas à aborder tous les sujets que vous ouvrez parce qu'il y a énormément de choses.
J'ai une réponse possible à ça quand même. C'est-à-dire que tout dépend de comment travaillent les éditeurs. Mais en fait, si les gros éditeurs dont tu parles, ou même un éditeur qui aurait commencé comme toi, ce que je te souhaite, tu vas te développer, etc. Le fait que le crowdfunding t'aide à développer des jeux là où c'était plus difficile avant va te permettre aussi d'aller chercher des auteurs pour développer de nouveaux jeux. Donc en fait, ceux dont on aurait pu penser qu'ils auraient pu démarrer avec un Kickstarter, mais ne le peuvent plus face aux grosses écuries, mais en fait, il y aura des écuries qui seront capables de d'aller les chercher pour proposer plus de jeux, parce qu'eux-mêmes auront plus de moyens de proposer d'autres jeux.
Ça paraît logique, mais à ce moment-là, on rentre encore une fois dans une démarche qui va être celle où, à l'époque, on va aller présenter nos jeux à Asmodée. Demain, on ira présenter nos jeux à Epic Games Factory, et moi, je leur dirai oui ou non selon la qualité du... Enfin, le rapport va finir par devenir le même.
En fait, tout le monde a pensé que ça changerait le monde, mais moi, je pense que ça ne le changera pas. Ça a changé plein de choses quand même, hein. Sur la communication, tout ce qu'on veut. Mais sur le métier d'éditeur, finalement, il va se passer les mêmes choses. C'est-à-dire qu'les auteurs vont continuer d'avoir un intérêt à essayer de trouver une publication chez un bon éditeur. Alors après, évidemment, ça, je rentre pas dans le débat des éditeurs. Est-ce que c'est un bon éditeur, mauvais éditeur? Comment il se comporte avec ses auteurs? C'est autre chose, hein.
Alors du coup, il y a quand même un truc intéressant. On parle de mutation. Ici, le sujet, c'est vraiment la mutation du rapport économique du jeu grâce à cet outil. S'il n'y a pas de mutation sur l'aspect financier pur, puisqu'on se retrouve visiblement sur les mêmes paradigmes qu'avant, est-ce qu'il n'y a pas quand même une mutation d'un point de vue rapport au public, rapport à mes clients finaux qui vont acheter mon matériel, d'une part dans ma proximité en tant qu'éditeur ou créateur avec le client final? Est-ce que ces outils-là permettent une plus grande proximité?
Je dirais bien sûr que oui. La chose que j'ai découvert avec la compagnie est que je connais le public beaucoup mieux après un mois de contact assez proche avec eux. Et c'est très important du point de vue de continuité de vente et de relations avec les joueurs, avec les meneurs de jeu. On crée sa propre clientèle en faisant une campagne. On sent une sorte de proximité avec eux. On peut communiquer très directement avec eux. Et ça nous permet de diminuer les risques en essayant de créer quelque chose que peut-être ils ne veulent pas. Et à l'autre côté, bien sûr, ils ont le pouvoir maintenant de diriger le gamme à l'avenir. Et c'est quelque chose de très, très puissant. Mais à l'envers, bien sûr, maintenant, il y a la responsabilité de livrer tout ce qu'on a promis. Parce que, en effet, c'est le public auquel on vend. Alors, on ne peut pas trahir ses espoirs. Ce financement est très direct. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé, je crois, avec Kickstarter, avec le crowdfunding. Cette liaison directe entre consommateurs, entre clients, entre joueurs et créateurs. Et c'est très, très puissant. Et, j'espère que ça va pouvoir continuer. Bien sûr, Kickstarter et crowdfunding est quelque chose de temporaire. Je crois que c'est... Bien sûr, c'est très... dans le vent maintenant, tout le monde en parle, mais quand... aux mesures que les économies changent, le marché change, les façons de lever les fonds vont changer aussi. Alors, il faut faire avec, il faut s'admettre que chaque fois qu'on lance un Kickstarter, le marché est un peu plus différent, un peu peut-être plus difficile. Maintenant, avec nous, par exemple, nous avons fait notre campagne en livres sterling l'année dernière, pendant que nous avions en Angleterre une économie stable. Et dans ces derniers 3 mois, nos fonds ont chuté de 15% à cause du soi-disant Brexit, quelque chose complètement inattendu et il faut faire avec. Alors il y a des choses comme ça qui changent le marché tout le temps. Et oui, ça nous aide beaucoup avec une sorte de stabilité, mais ça introduit aussi une autre sorte de risque parce qu'on ne connaît pas, on ne comprend pas encore comment ça va se changer à l'avenir.
D'une manière générale, la mise en place des crowdfunding dans le modèle économique de Sans Détour nous a permis quand même de tirer les choses vers le haut, d'avoir des ambitions différentes, de pouvoir accueillir des jeux qu'on n'aurait pas pu avoir sans l'aide des crowdfunding. Clairement, hein, les opérations, ce qu'on a fait sur les contrées du rêve, on l'avait fait effectivement une première fois sur l'appel de Cthulhu, c'est entre guillemets facile. C'est beaucoup de travail, notre public est là. Là, on rentre dans l'inconnu. On va faire, on va attaquer Paranoia. Paranoia, c'est un jeu ancien. On ne sait pas où on met les pieds. Les Américains ont fonctionné, ils ont fait une grande réussite. On considère que le public français sera au rendez-vous. Ça nous impose de l'ambition. Ça nous impose de proposer quelque chose de différent, de novateur, et de tirer vers le haut, d'aller chercher de l'imaginaire, d'aller chercher de l'imagination, d'aller chercher des auteurs, de l'illustration, en l'occurrence beaucoup, enfin de l'humour sur ce qu'on fait. On n'a jamais fait de l'humour pour l'instant, sauf du noir. Voilà, c'est de changer les choses. De manière générale, le crowdfunding permet ça. Ça donne, effectivement, il y a le volet financier, le volet. C'est une pompe financière, hein, avec un cadencement différent. Alors, avec Black Book, on n'a pas le même cadencement. Black Book fait des financements participatifs plus régulièrement, c'est souvent. Nous, c'est pas notre modèle. Pas encore, on n'est pas sur ce cadencement-là. Donc, nous, on saute d'un FP à un autre tous les 6 mois. Donc c'est une autre chose, mais l'envie de réussir, le rendez-vous peut-être plus rare, provoque aussi un autre effet auprès du public. C'est très long à annoncer. Idéalement, on aimerait annoncer nos FP aboutis 3 à 6 mois avant pour pouvoir commencer à teaser. Pas possible, le travail est tel qu'on sait qu'on peut lancer, mais on le sait 15 jours, un mois avant. On dit ça y est, on est prêt. Ah bon, mais fallait me prévenir plus. Ben, pourquoi pas. Ça y est, c'est prêt. Et comme disait tout à l'heure, il faut faire vite. Donc quand c'est prêt, ben, on lance parce que on a payé de la traduction, on a payé l'illustration, on a quand même payé parce que les contrats, il y a énormément de contrats sur un FP, des contrats en pagaille. Vous avez des tas de traducteurs, des tas d'illustrateurs, des tas de relecteurs. Nous, on fait 2 passes de relection. C'est des contrats à chaque fois. Ces personnes-là sont détachées de l'entreprise. Donc, elles sont payées à la tâche. Elles n'attendent pas que le crowdfunding soit terminé pour être payées. Il faut payer les illustrateurs, les traducteurs, au fil de l'eau. C'est des coûts supplémentaires. Donc, voilà, ça change notre relation au travail, ça change nos choses. Mais, d'une manière générale, ça nous a tiré vers le haut. Et plus d'exigence, donc plus d'ambition, et donc l'obligation davantage de réussite et de plaire mieux.
Moi justement sur ce rapport là c'est super intéressant parce que nous on a toujours, enfin moi j'ai toujours été joueur, donc pas forcément de jeux de rôle à la base, mais de jeux de figurines ou d'autres jeux, peu importe, mais moi j'ai toujours créé des choses parce que je trouvais qu'il y avait un manque. C'est aussi simple que ça. Quand on a créé Stigmata, on a fait un jeu de rôle d'initiation parce que on se voyait pas du tout lancer un jeu de rôle alors qu'on n'avait jamais lancé de jeu de rôle. Donc le jeu de rôle d'initiation, bah nous on en avait envie, on en avait besoin. C'était dans un univers post-apo, un peu déjanté, mais qui pouvait toucher un grand public. Donc on s'est dit, allez, soyons fous. Ça nous permettait de développer notre univers. On s'est lancé. C'est super intéressant parce que moi, je viens d'une période où le crowdfunding, c'était beau, c'était génial et tout le monde était content. Et ça, c'était génial parce que du coup, on lançait un produit, c'était nouveau. Les gens étaient contents de pouvoir soutenir. Et quand on a commencé à lancer Stigmata et les derniers projets, ça a été super délicat parce que on se retrouvait avec des commentaires qui disaient, alors texto, moi je vais plutôt attendre qu'ils sortent en boutique. Sauf que c'est fondamentalement en fait le jeu, si malheureusement on n'a pas les gens, les joueurs motivés pour le soutenir, mais il ne sort pas en boutique. Et ça c'est hyper délicat parce que ça veut dire qu'en fait on retombe à la base, quoi. C'est-à-dire que on retombe sur le format du joueur consommateur lambda, et je trouve ça, et c'est là où c'est vraiment le côté qui m'a le plus attristé, parce qu'au final on est en train de, et là moi ce qui m'attriste un peu, c'est que on est en train de tomber sur quelque chose qui va se retrouver formaté de la même manière qu'on va consommer un jus d'orange ou qu'on va acheter un jus d'orange au supermarché, et moi c'est ce que je veux. C'est l'élément en face duquel j'ai pas envie de me retrouver, quoi, parce que déjà on fera pas le poids, tout simplement, c'est évident, et ensuite tout simplement parce que c'est pas du tout la conception du truc, et que moi j'ai envie que les gens ils vivent avec nous, ils soient motivés avec nous, qu'ils prennent des risques avec nous, parce que c'est une grosse forme de risque, et quitte à ce qu'ils nous suivent pas jusqu'au bout, mais qu'au moins l'état d'esprit soit là. Et quand je lis ce genre de commentaires, parce que j'en ai, bon, après c'est toujours pareil, hein, c'est le 1%, hein, le 1% fait toujours plus de bruit que tous les gens qui nous suivent et qui sont super solidaires, et ça fait toujours énormément plaisir. Je veux dire, là c'est ce que j'expliquais quand on venait sur le salon, on avait plus de démonstrateurs que de tables, donc quand c'est dans ce sens là c'est toujours super appréciable, ça veut dire qu'on est suivi physiquement aussi, donc ça c'est cool. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la transformation, elle est réelle et que c'est, je pense, aussi lié au nombre d'utilisateurs. C'est-à-dire que quand on touche un public et des joueurs qui sont un public niche, ben forcément, ben y a moins de consommateurs lambda férus de quantité et pas de qualité. Donc ça, je pense que c'est un marché qui va évoluer. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'on pourra continuer avec Happy Games Factory à proposer des jeux qui se voudront pas forcément conforme à ce qui se fait actuellement. Sur Gnome et Associés, c'est pas du jeu de rôle, mais encore une fois, j'en parle parce qu'on est en plein dedans. On nous a reproché de pas vendre du kilotonne de figurines, parce qu'on peut pas s'aligner sur des gros acteurs du marché. Sur Stigmata, du coup, on a dû aussi, pour retrouver notre public figurine, insérer un peu de figurines. Mais ça permettait aussi de montrer aux gens, de les amener dans le jeu de rôle aussi différemment. Parce qu'on a un contact physique avec les choses, c'est toujours plus facile que d'essayer de s'imaginer une entièreté tout de suite. Donc on s'adapte, la plateforme s'adapte aussi et évolue énormément. Donc après, il y a une forme d'adaptation et à un moment donné, il y aura ou un décrochage ou il y aura du répondant en face et ça pourra continuer à perdurer.
Alors c'est très intéressant parce que là encore, tu parles de mécanismes que tu dois mettre en œuvre toi. C'est-à-dire que c'est toi qui définis la philosophie de ta boîte, en gros. Est-ce que tu vas proposer au public en termes de possibilité de participer? Mais est-ce que ce modèle-là, c'est un modèle qui doit être systématique ou pas dans le mécanisme du crowdfunding? J'en suis pas forcément sûr. Du coup, peut-être qu'on peut approcher le sujet, mais j'aimerais approcher le sujet aussi autour d'une autre question, parce qu'elles sont liées, je pense. C'est comment je fais pour ne pas générer de frustration auprès de mon public, notamment quand un projet, je le préachète. On a la même chose d'ailleurs dans le jeu vidéo sur le sujet. Quand je le préachète et que derrière, ma livraison s'effectue dans un temps assez long, voir comment je communique sur ces deadlines.
Du coup, je vais juste rebondir parce que c'est tout frais et dans ma tête aussi. Moi, j'ai bossé sur beaucoup de Kickstarter différents, d'entreprises différentes. Donc, Don't Panic Game sur Dracarys qui s'est fait attendre quand même 2 ans. Sur Stigmata, on va livrer en décembre et en parallèle, là, on est en train de lancer une campagne. Donc, il y a toutes ces questions qui se posent. En fait, là où aussi il faut communiquer, et je pense que ça, c'est une des forces du Kickstarter et c'est pas que du marketing, c'est vraiment une question de communication, comment on communique avec son équipe. Moi, souvent, ce que je dis, c'est que les gens qui participent au Kickstarter, finalement, intègrent aussi un petit peu l'équipe. Donc, avec eux, faut communiquer, faut discuter. Et je pense que le problème fondamental, il est autour de la communication. C'est-à-dire expliquer aux gens pourquoi c'est en retard, expliquer aux gens les réalités, c'est-à-dire ne pas essayer de bluffer ou de sortir des fausses réalités juste pour temporiser, parce que c'est une erreur, mais grossière et énorme. Et à mon sens, le principal est là, savoir dire aux gens, écoutez, la production, en fait, elle prend que 20 jours parce que ça va très vite. Le print peut aller très vite, mais effectivement, par exemple, si on imprime en Chine, il y en a pour 6, 7, 8 semaines de transport. Je sais pas, ça va dépendre du transporteur. Il y a en ce moment des soucis de transporteurs aussi parce que il y a ces problèmes-là. On a eu le cas, c'était encore il y a 2-3 semaines, où il y avait des exemplaires de, je crois, c'était The Others qui a été bloqué parce que c'était Cool Mini pourtant, mais ça n'empêche. Donc il y a des réalités, il y a des réalités physiques. Par exemple, nous, c'est l'inverse qui nous est arrivé, c'est-à-dire que sur Dracarys, finalement, le dollar a grimpé. Du coup, nous, on a eu plus de fonds que ce qu'on pensait quand ça a été converti en euros. Il y a cette réalité financière. Il y a la réalité des transporteurs. Il y a tout ce qui est réalité dans lesquelles on n'a pas trop envie finalement d'amener les gens parce que ça casse un peu le rêve, mais sur lesquels malheureusement, il faut absolument communiquer parce qu'il faut que les gens se rendent compte de ce qu'ils soutiennent. Est-ce qu'ils soutiennent une réelle petite entreprise? Est-ce qu'ils soutiennent une petite moyenne entreprise et est-ce qu'ils soutiennent une grosse machine de guerre? Parce qu'à un moment donné, là-dessus, il faut être transparent, quoi. C'est tout.
Effectivement, aujourd'hui, le pledger, le client, le consommateur a toute l'information à sa disposition. Si on ne lui donne pas, il peut la trouver ailleurs. Non, il peut la trouver ailleurs. Il ira chercher si on ne lui fournit pas. Après, dans le fantasme ou dans la réalité, il y a beaucoup de n'importe quoi. Si l'Internet est à l'image de l'humain, c'est une grande part de Portnawak et une part de gens qui ont la vérité parce qu'ils font le boulot, ils font le job, mais ils ne convaincront pas les autres. Non. Oui à la communication, oui à la transparence. Le fait est que quand on livre un produit dans les clous, dans les timings à peu près avérés, en annonçant éventuellement des retards, on acquiert cette confiance, on gagne cette confiance. Et plus, je pense que alors c'est valable pour une entreprise déjà implantée. Quand on vient de commencer, on mise sur cette confiance-là. On mise sur ça. Voilà, montrez pas de blanche quand on commence. C'est très très compliqué. Et ça passe par cette communication-là. Entreprise, chez Sans Détour, on passe par cette communication, mais également par les exemples qu'on a déjà vécu. On l'a déjà fait. On va le refaire avec vous. Voilà, les pledgers savent que voilà, on a les épaules de plus en plus larges, épaisses, on arrive à faire des choses. Les retards, on les assume, les erreurs, on les paye parce qu'on peut dans une certaine limite. Et puis voilà, on est vraiment sur cette dynamique, sur cette transparence. Le fait de la communication, c'est aussi la clarté. Trouver l'argument qui soit difficile, enfin qui puisse pas être contesté facilement, parce que on peut contester n'importe quel argument, on peut trouver une information contradictoire ou pas. Voilà, un exemple que j'ai en tête, c'est au moment des masques de Nyarlathotep, quand on a fait la sacoche des masques, il y avait un retard de livraison. On a dit c'était vrai, c'était la mousson en Inde. Quel rapport entre la mousson et la sacoche? Le fait est que la mousson met les machines en panne en Inde. C'est électrique, hein, ils ont les machines électriques, ils font pas à la main. Mais c'est pas nous qui l'avons dit, c'est un pledger qui s'est renseigné, qui a été sur place et qui dit oui, il y avait 2 mois de blocage parce que il a fait un article long comme ça, avec tout ce détail là. Des choses qu'on peut pas faire. Si ça vient de nous, ça pourrait passer pour de la propagande. Et en fait non, ça venait d'un pledger. Et voilà, on a aussi ce soutien. La communauté se renseigne, s'informe. Les gens entre pledgers, entre communiqués, comparent aussi ce qui se fait. Donc ça impose aussi de la rigueur, ça impose comme ça des exemples de communication. On va chercher des recettes chez les concurrents, peut-être qu'ils en prennent chez nous, parce que voilà, un tel a fait ça, là, c'est une bonne idée, on va le faire. Chris avait l'idée, on a été piqué chez lui, hein, les paliers des paliers sociaux, les pledgers les paliers sociaux, avec quand vous avez fait tomber 150 likes, ça tombe. Et il avait toute une grille, c'est une idée géniale, on n'avait jamais pensé. C'est Chris de Modifius qui a inventé ça. On l'a piqué. Voilà, c'est notre pote en même temps, donc on peut se permettre. Donc voilà, et ça, ce sont des choses qu'on croise, et ça bonifie, ça permet à nos projets de vivre mieux, de vivre en plus de grande transparence. Tout le monde est rassuré. Et nous aussi, parce que plus on avance dans cette démarche, dans cette discipline, plus on apprend. Hein, c'est pas parce qu'on a fait un bon score avec la V7 qu'on sait le faire. C'est du Cthulhu, c'était entre guillemets facile, on a mis plein de matériel. On regrette pas, mais on peut pas le refaire. Hein. Avoir autant de bouquins à disposition disponibles sur une seule gamme, ça n'existe pas. Donc c'est compliqué de reproduire ça. Il faut que les pledgers comprennent qu'un projet, une époque, une saison correspond à un niveau des royalties, le dollar différent, la livre qui change, la possibilité d'avoir tel ou tel équipement. Voilà, c'est saisonnier, c'est annuel, et il faut que nous on les paramètre. Pour nous, ce sont des variables d'ajustement qu'on doit prendre en compte. Il est impossible de les étaler aux yeux du public, parce que c'est extrêmement compliqué. Le public doit savoir que ça existe et que c'est assez compliqué pour nous de les faire cohabiter, pour que les Kickstarter se ressemblent, parce qu'au bout du bout, les gens compare ce qu'ils font, la figurine, machin, ils comparent pas forcément avec toutes les cartes, mais ils ont tendance à prendre des raccourcis qui va les conduire à penser que un tel crowdfunding est naze. Non, il n'est pas naze. Il fait avec ses moyens, avec ses équipes, avec sa communauté, voilà. Et c'est pas facile effectivement de lever 1000 euros quand on débute, et c'est encore moins facile d'enlever 100 000 quand on est implanté, parce que ça peut être pris comme un échec si on a une grande gamme, alors que ça ne l'est pas. L'ambition, elle est de faire 10 000, 15 000 parce que c'est suffisant. Et les crowdfundings ne sont pas comparables entre eux, même s'ils sont dans la même gamme.
Alors, je vais générer beaucoup de frustration parce que le temps tourne excessivement vite. J'aimerais entendre Damien, peut-être pour conclure sur le sujet du rapport au public. Et puis, on gardera un petit peu de temps pour les questions du public.
Bah, je vais essayer de faire court. Mais sur les attentes au public, ce qui a déjà été dit est à prendre en compte. Moi, en tant que représentant de Black Book Edition, je suis totalement en phase avec ce que disait Mohamed sur le fait d'être dans l'honnêteté vis-à-vis du public. Après, est-ce qu'on peut... Il y a toujours des choses qui sont compliquées à dire. Ce qui est sûr, c'est que en fait, on s'aperçoit avec l'expérience. Ça fait 13 ans que dans le jeu de rôle, de toute façon, il y a du retard tout le temps. Donc ça fait 13 ans que des quantités de gens m'expliquent ce qu'il faudrait faire pour répondre aux attentes. Et en fait, moi, au bout de 13 ans, j'ai qu'une seule réponse. Ce que les gens attendent, c'est que le produit sorte. Et tout ce qu'on peut faire, en fait, avant ce moment-là, c'est aider, soutenir les personnes en leur offrant un peu de contenu qui les aide à patienter. Mais au-delà de ça, les mécanismes fonctionnent pas. Il y en a qui disent oui, il faut mettre une échelle qui avance d'avancement, etc. Mais en fait, à chaque fois qu'on met une deadline fixe, des échelles, etc., dès que ça bouge pas, dès que la deadline est passée ou n'importe quoi, on revient au même problème. Et en fait, la seule solution, c'est de livrer le produit. C'est la seule vraie solution. Mais il y aura toujours, on sera toujours en déficit de communication pour quelqu'un. Toujours. Donc vaut mieux pas se mettre dans des situations compliquées, c'est-à-dire annoncer une date qu'on pourra pas tenir, vouloir absolument passer du temps à définir des étapes, sauf qu'en fait quand une étape ça va bloquer, les gens vont se dire ah, pourquoi ça bloque. Donc nous en général maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on voilà, on essaie de répondre aux gens qui nous posent des questions, de donner des nouvelles régulières dès qu'il y a des choses qui avancent. Mais quand les choses n'avancent pas, à nous de nous efforcer de les faire avancer de notre côté. Et de toute manière, ce sera quand le produit sera livré que les gens seront satisfaits, mais pas avant.
Merci Damien. Du coup, public, charmant public, as-tu des questions ?
Alors j'ai deux questions. Je vais commencer par la première main qui s'est levée. Par contre, j'ai un problème de fil.
Alors moi, je voulais vous avoir votre avis sur la position des boutiques dans ce nouveau modèle économique. Alors, pas tant sous l'angle provoquant, que j'imagine c'est des questions que les boutiques doivent vous poser souvent, quelle est notre place de conseil dans tout ça, mais plutôt de votre point de vue à vous, comment est-ce que vous incluez le canal de vente boutique dans votre modèle économique ? Alors, j'ai vu par exemple, notamment dans les crowdfunding de Black Book, qu'il y avait des offres spéciales boutiques, par exemple. Mais est-ce que c'est juste un peu un effet d'annonce pour contenter les boutiques, ou est-ce que pour vous, stratégiquement, économiquement, il y a un intérêt à inclure la boutique là-dedans, ou au contraire, c'est un intérêt de complètement la bypasser ?
Je suis interpellé, je vais répondre rapidement. Nous, on a toujours voulu inclure les boutiques, du fait déjà de notre passé, c'est-à-dire que le gérant de Black Book, David, qui n'est pas là aujourd'hui, mais c'était quelqu'un qui tenait une boutique. Moi, je l'ai rencontré dans sa boutique. Et donc, c'est quelque chose auquel on est attaché. Voilà, donc ça, c'est pas le côté stratégique, c'est le côté vraiment intime, quoi, du rapport au marché, etc., qu'on a depuis très longtemps. Et ensuite, après, stratégiquement, je sais pas si les entreprises ont l'habitude de donner leurs données stratégiques en face de leurs concurrents et du public, qui pourraient devenir leurs concurrents. Mais bon, on s'aperçoit en tout cas que Black Book a fait un effort, notamment en proposant un crowdfunding qui était uniquement destiné aux boutiques. Donc en fait, les gens qui suivaient le crowdfunding devaient aller dans leur boutique pour soutenir le projet, devaient passer par leur tiers. Donc c'est vrai que nous, on a une démarche qui consiste à montrer quand même aux boutiques que si elles veulent, elles peuvent continuer à faire leur travail. Elles ne sont pas condamnées à perdre leurs clients. Voilà, avec nous. Ça, c'est vraiment ce qu'on essaye de leur montrer. Et puis après, il y a tous les autres intérêts. Donc ça, c'est plus large, c'est moins stratégique, je dirais. C'est qu'on s'aperçoit que toute la communication que génèrent les crowdfunding, c'est une communication en plus d'avant pour faire parler des produits, pour redonner pour faire un coup de fouet un peu au milieu du jeu de rôle. Je veux dire, ça profite vraiment au jeu de rôle, cette effervescence. Donc le jeu de rôle se met à revenir. Il y a eu plein d'autres événements. Il y a plein d'éditeurs qui travaillent depuis longtemps pour que le jeu de rôle revienne. Donc tout ça profite aussi, in fine, aux boutiques. Donc voilà, je laisse les autres parler.
Moi, je trouve la question intéressante parce que avant de lancer des crowdfunding, je bossais déjà avec des boutiques. Et là où c'est très intéressant, c'est, et là je pense qu'il faut le dire en amont, une boutique, le mode de fonctionnement, et c'est là où le rapport entre éditeurs change, c'est le rapport entre éditeurs et boutiques, c'est qu'une boutique, pour faire très simple, va payer un pourcentage en moins, je vais dire n'importe quoi, mais en gros va payer 40% en moins son produit et va avoir à le payer souvent un petit peu plus tard, c'est-à-dire qu'elle va recevoir la marchandise, la vendre et pouvoir la payer un peu plus tard. Elle prend le risque de faire du stock, mais ce rapport avec le crowdfunding, il est totalement différent parce que on demande à une boutique de sortir de la trésor sans savoir quand est-ce que finalement cette réseau va pouvoir rentrer. Donc moi, de par mes rapports avec ces boutiques, j'ai certaines boutiques qui m'ont toujours suivi, et j'ai eu la chance d'être suivi par Trollune sur Lyon, par Philibert sur Strasbourg, par des boutiques qui sont de vrais soutiens. Là, sur la dernière campagne, il y a Helvetia aussi qui nous soutient. Mais c'est parce que j'ai des rapports humains avec eux et qu'on s'entend bien, qu'ils savent que ils croient en notre projet. Mais ce rapport-là, il est extrêmement délicat parce que, d'une part, elles doivent avancer de l'argent, donc ça met en danger un petit peu leur société à elles aussi, puisque c'est des petites sociétés comme nous. Et en contrepartie, par contre, c'est un super outil marketing parce que ça permet de remettre en avant des produits que tout le monde pensait être perdu. Je veux dire, moi, il y a encore quelques années, tout le monde me disait « Ouais, mais le jeu de rôle, ça va pas, le jeu de rôle, c'est mort, le jeu de rôle... » Enfin, je veux dire, alors que... Enfin, moi, je trouve que ça se porte très bien. J'étais à la Gen Con aux États-Unis, Pathfinder, il y a des salles combles de je ne sais pas combien de personnes qui jouent toute la nuit, 5 000, 10 000, enfin, je sais même pas combien il y avait de personnes dans ces énormes salles. Et je trouve que... À un moment donné, finalement, on peut parler de rapport de force dans un certain sens. C'est pas négatif. C'est juste qu'à un moment donné, ça recrée des échanges qui sont différents. Et je trouve que ça recrée un petit peu d'équilibre aussi, parce que ça va pousser un petit peu les boutiques à peut-être mieux sélectionner les produits qu'elles rentrent, mais peut-être y croire un peu plus aussi, donc mieux le présenter derrière. Alors, je veux dire, on a l'exemple type de Zombicide où les gens disaient que c'était pas possible, que du coup ils pourraient pas en vendre en boutique, et pourtant c'est un super succès parce que marketingement parlant, ça a amené les gens en boutique parce que ça parlait.
Merci Marlon. Je suis au désespoir de vous annoncer que quand sonne le glas, faut s'arrêter. J'ai entendu les applauses d'en bas. Du coup, j'ai deux petites annonces à faire. Je suis désolé pour les questions éventuelles auxquelles on n'a pas pu répondre. Première annonce, l'essentiel de ces bonnes gens sera retrouvable en bas, au pôle ludique. Donc ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, pour ceux que ça intéresserait dans le futur, j'ai appris que ActuSF enregistrait toutes ces tables rondes et que si vous vous connectez sur leur site, vous aurez les informations dans le futur. Je n'ai aucun lien avec ActuSF, mais ça me fait plaisir de vous dire que c'est retrouvable dans le futur. Voilà, merci à vous. Et bonne journée.